Bonjour et bienvenue dans le podcast The Banana Split Project qui recueille des témoignages de Français d'origine asiatique revenus vivre en Asie. Aujourd'hui, je suis avec Sophie Tan, une Française d'origine chinoise du Cambodge qui a grandi en France, vécu à Londres et posé ses valises il y a un an à Singapour. Elle nous racontera le choc de son arrivée en Asie, sa recherche d'emploi et les quiproquos sur son nom de famille ou encore avec son mari franco-américain. Il y sera question de discrimination, des idées que se font les autres en la voyant et de sa quête d'identité. Je vous souhaite une très bonne écoute. C'est parti. Bonjour Sophie, dis-nous d'où tu viens.
Bonjour, moi c'est Sophie. Je suis donc française, mais d'origine chinoise Tétiou. Que ceux qui se reconnaissent, Tétiou Nang, Kakinang. Mes parents sont arrivés en France à la suite de la guerre. Au Cambodge. Donc, eux, ils étaient à la base au Cambodge.
D'accord. Ils sont arrivés donc dans les années 70,
oui,
c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Et toi, tu es née en France,
hein. Et je suis née en France comme tous mes cousins. Que la deuxième génération est entièrement française.
Alors, tu habitais à Paris, c'est ça ?
Oui, j'ai habité dans la région parisienne, dans l'Est parisien. J'étais une des seules... asiatique d'origine dans l'école.
D'accord.
Un peu l'ovni de l'école.
Est-ce que tu t'es sentie discriminée du coup ? Tu as ressenti cette différence ?
Je dois dire qu'à l'époque, je ne mettais pas sur le compte de ma couleur, vraiment. Donc, c'était plus le fait de grandir, le fait de changer mentalement, de passer à travers l'adolescence, tout ça. Qui fait que je me sentais toujours bizarre, toujours en train de me chercher, on va dire.
D'accord.
Mais je pense pas que à cette époque je me rendais compte de ça. C'était peut-être le cas, c'était peut-être pas le cas, mais c'est vrai que c'était pas ça. Rentrait pas en compte vraiment dans ce que je ressentais, quoi.
D'accord. Et est-ce que tu as fréquenté ta famille en France ? Vous aviez des cousins cousines ? Vous étiez en communauté ou au contraire vous étiez très intégrée avec la société française
D'une part, c'est vrai que j'avais la chance d'avoir beaucoup de cousins qui étaient à peu près de mon âge. On a eu beaucoup d'occasions de se retrouver. Mais à part ça, je dois avouer que mes amitiés restaient les gens que je retrouvais autour de moi en classe. Donc pas communautaire du tout.
Tu cherchais à être comme tout le monde. Enfin, tu te sentais complètement comme n'importe quelle autre Française.
Alors moi, je me sentais vraiment comme une Française lambda. À l'intérieur, mais en revanche, me remettait en place, en quelque sorte, parfois de manière journalière, par des commentaires. Par,
quel genre de commentaires ?
Je me souviens pas de tout, mais ça va être des ni hao, des xing xong xing. Voilà, vraiment, je flâne, je me promène
dans la rue,
à n'importe quel âge. Plus récemment, je me vois encore quand même et sans raison, ça sort de nulle part, c'est comme une bombe, comme ça. Ouais. On me rappelle que j'ai une couleur différente.
Et est-ce que tu réponds? Comment tu réagis?
J'ai souvent imaginé la réponse idéale à donner à ce genre de, d'agression.
Ouais.
J'ai jamais réussi à trouver finalement. Donc, la vérité, c'est que je reste complètement tétanisée, paralysée, parce que je me rends compte, mais trois secondes après, de ce qui s'est passé, tellement
c'est difficile.
Ça me passe au-dessus.
Moi, je me faisais traiter de Chintok à la maternelle, et quand je disais ça à ma mère, elle me disait, mais t'as qu'à leur dire France Top.
Et bon.
Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu as fait comme étude et où est-ce que tu as commencé à travailler?
Alors, moi, j'ai fait des études de pharmacie à la base, donc à Paris. Et j'ai très rapidement, après la fin de mes études, je suis allée à Londres pour travailler. Donc, c'est là que j'ai fait ma plus grosse partie professionnelle.
D'accord.
Et vécu, en quelque sorte, une autre dimension de ma couleur.
C'était différent, le regard des gens à Londres ?
Donc, c'était différent dans le sens où j'avais l'impression qu'on ne me remarquait pas, hein, ou un peu moins en tout cas, qu'il y avait une espèce d'indifférence, pas de rappel, il n'y a pas de question de rappel de ma couleur.
Du coup, c'est plus confortable.
C'était quelque chose proche de la normalité presque.
Oui. Voilà, d'être dans l'anonymat, de ne pas être désigné.
Exactement, de ne pas être pointé du doigt. quotidiennement de cette expérience anglaise, j'ai compris que c'était possible, qu'il y avait des endroits où on pouvait vivre bien parmi les autres.
Et tu restais combien de temps à Londres ?
J'ai fait 4 ans à Londres.
D'accord.
Et suite à ça, c'était un déménagement motivé par le transfert de mon mari à Singapour. J'ai suivi.
Donc, tu arrives à Singapour il y a combien de temps ?
Je suis arrivée il y a moins d'un an maintenant. J'étais assez enceinte quand je suis arrivée.
C'est-à-dire
j'avais à moitié enceinte.
D'accord.
J'étais à 4 mois. De grossesse. C'était un emménagement à Singapour assez spécial.
Et quelles ont été tes premières impressions à Singapour? Qu'est-ce que tu as ressenti en arrivant en Asie? Parce que finalement, tu n'avais jamais vécu en Asie avant.
J'avais jamais vécu et puis je n'avais pas vraiment voyagé en Asie à part peut-être Taïwan familial. Mais quand je suis arrivée ici, c'était majoritairement les premières semaines, je pense, la foule totalement asiatique, l'espèce de vague de personnes, de la vague asiatique dans les rues, et surtout j'étais à Orchard.
En plein centre-ville de Singapour.
Et c'était sans fin, en fait. Là où moi je vivais à Paris, là où tu peux retrouver autant d'asiatiques dans la rue, ça va être dans le quartier chinois. Mais quelque part, tu en sors et tu ne vois plus ce...
Et qu'est-ce qui te dérangeait, entre guillemets? Enfin, est-ce que c'est le fait qu'il y ait tellement de monde ou c'est le fait d'être reconfronté par
plusieurs,
ton image?
C'était plusieurs choses. C'était le fait de pas comprendre, en fait, ce qui se passait. C'était en décalage avec ce que j'avais toujours vécu. La majorité était ici de ma couleur. Et il n'y avait pas d'endroit pour... On n'y échappait pas, en fait. Pas dans le mauvais sens du terme, mais plus il n'y avait pas d'endroit où rentrer où tout le monde était blanc. C'était tout le monde était asiatique. Et moi, j'étais dans la majorité. Il y avait un vrai switch. Et dans ma tête, ça a vraiment dû travailler, quoi, pour que ça s'intègre. Au début, ça m'a fait un peu des effets de panique parce que je comprenais pas ce qui se passait. Ouais. Ayant vécu toute ma vie dans des pays à majorité blanche.
Donc c'est déstabilisant de se retrouver tout à coup dans la majorité, ne plus être la minorité finalement.
Oui, peut-être la source de l'angoisse était aussi de faire attention, de conserver mon originalité. Parce que j'avais toujours été
l'asiatique
en gros, ouais. En France, mais là je me retrouve française dans un pays asiatique, mais personne ne le voit parce que je ressemble à tout le monde.
C'est ça. Personne ne voit ta particularité qui est que tu es française en fait, et c'est ça que tu as envie que les gens remarquent.
Hein. Oui, j'ai surtout pas envie de ressembler à la majorité. Puisque ce n'est pas le cas. Donc, c'est très schizophrène.
Ouais. En fait, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, même si ça peut paraître un petit peu complexe, mais en France, on s'est défini par rapport à une identité particulière, presque en opposition aux autres, ou en décalage, ou une différence, quelque chose d'exotique, quelque chose qui nous fait remarquer, finalement. Alors qu'ici, quand on est en Asie, on se fond dans la masse. Comme tu dis, il y a une horde d'Asiatiques sur Orchard Road à Singapour. On est dans l'anonymat, et pourtant, on se sent tellement différent, c'est ça ?
Oui, tout à fait. C'est le sentiment d'être parmi la masse, d'être dans la masse, mais de pas vraiment en faire partie, donc d'avoir besoin de trouver son lien avec quelque chose, avec quelqu'un, avec
oui. Alors, en plus, toi, tu t'appelles Sophie Tan, et Sophie Tan à Singapour, c'est hyper commun. Il y en a plein des Sophie Tan. Comment ça se fait?
Eh oui, j'ai constaté ça en arrivant. Encore moins original. Tu peux pas faire mieux. Là, j'étais Sophie Tan à Singapour, fondue dans la masse. Donc, ça a été encore plus flagrant au début, dans les premiers temps de ma recherche de travail, où les recruteurs, les managers, penser d'emblée que j'étais une Singapourienne, que ça va être beaucoup plus facile pour eux de m'embaucher. Et je voyais la déception sur leur visage quand ils constataient qu'en fait, c'était plus complexe que ça.
Oui, parce qu'ils s'attendent à voir débarquer une Singapourienne lambda, on va dire, parce que c'est vrai que c'est un nom commun.
Oui, et voilà. Et mon parcours, Déjà, ma manière de parler faisait que c'était plus complexe et plus... Il y avait plus de choses à comprendre, à expliquer. Voilà.
Oui, parce que tu es une étrangère ici, donc il faut expliquer.
Étrangère, mais c'est pas écrit, comme on dirait, c'est pas écrit sur mon visage que je suis une étrangère, pour le coup. Donc, ça ajoute encore cette histoire de on se fond dans la masse, mais pas vraiment.
On est toujours un peu décalé. En tout cas, on te souhaite bonne chance pour ta recherche d'emploi. Merci. En pharmacie. Tu es arrivée à Singapour avec ton mari. Ton mari, il est français aussi, comme toi?
Il a des origines françaises, culture américaine, peut-être très français lambda. Et ce qui est marrant, intéressant quand on se retrouve ici dans des soirées entre français, c'est que je vais être l'étrangère, on va s'adresser à moi comme à une étrangère en anglais, donc. Lui, en français, il parle très bien français, donc il n'y a pas de souci. Il y a comme un décalage entre... moi qui dois, j'ai presque l'impression de devoir prouver, réitérer le fait que je suis française. Oui, effectivement, j'ai une autre tête. Je suis française. J'ai les mêmes références que j'ai vécu la même chose que vous. Et lui qui passe facilement.
Oui, en fait, c'est toi la plus française des deux, mais les gens pensent que c'est lui parce que il a la tête qui correspond.
Qui correspond à l'emploi.
Tu as eu un bébé ici. Elle a quel âge maintenant?
Maintenant, elle a autour de, ouais, elle a 7 mois. Donc, c'est une petite métisse.
Comment elle s'appelle?
Charlotte.
Ouais.
le questionnement, c'était, pour moi, en tout cas, comment est-ce qu'elle va percevoir cette double identité qu'elle a, être française, avoir une couleur clairement différente, et bon aussi son côté multiculturel derrière.
Ouais. Et le fait d'être en Asie avec finalement une tête métisse asiatique.
C'est ça. Le ça c'est tout un questionnement qui est encore en suspens, je dirais. Construire son identité, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, quelque part, j'ai confiance que ici, ce sera pas négatif, ou en tout cas, ce sera peut-être difficile, mais ce sera pas quelque chose de négatif pour elle d'être dans ce métissage-là.
Oui. Il y a beaucoup d'enfants ici qui naissent de plusieurs cultures.
Donc, c'est très commun, on va dire. Il n'y a pas d'exotisme, on va pas lui faire ressentir qu'elle est différente. Oui. C'est toute la différence avec la France.
Et par rapport à la famille qui est en Asie, parce que tu as encore des liens peut-être avec des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins ici?
J'ai effectivement de la famille pas loin, donc à Taïwan. Ce sont des oncles et tantes, mon grand-père et ma grand-mère maternelle. Pour le coup, le lien a pas été est pas très fort parce que je les ai pas vus souvent, j'ai pas eu l'occasion, c'était loin de la France, mais je savais toujours qu'ils étaient là quelque part, là que j'avais de la famille
loin.
Voilà. Et étant plus proche d'eux maintenant aujourd'hui, j'ai vraiment envie de retisser le lien, de renforcer et de. Je pense que c'est surtout l'excuse, c'est Charlotte qui est arrivée dans ma vie, qui m'a redonné, qui m'a donné cette impulsion.
Oui. Donc ça veut dire que tu recherches un peu plus le lien avec tes origines, ton passé, tes racines asiatiques.
On peut dire que c'est ça, même si c'est vrai que c'était difficile de le mettre en mots, ça. Dans les gestes, je sens qu'on replonge vers les racines, on replonge vers le passé. Et Singapour, par hasard, il se trouve qu'il y a une histoire forte Tietiu. On le voit dans dans les rues, les noms de rues, les noms de lieux. J'ai atterri quelque part de pas trop loin des origines de ma famille.
Donc c'est bien tombé. Pour toi, le concept de banane, Sophie, c'est quoi? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça te parle, ce concept?
C'est vrai que j'ai cherché sans vraiment savoir que ça existait, cette espèce de communauté de bananes. Pour faire court, je suis arrivée à Singapour, je me suis rendu compte qu'il y avait des racines Tietiu, donc je me suis dit, je vais tout de suite me connecter avec tous les Tietiu qui sont dans le coin, je vais me retrouver, ou je vais trouver quelque chose qui me lie à eux. Je me suis rendu compte que c'était pas du tout le cas, qu'on n'avait pas du tout la même histoire, on n'avait peut-être même pas la langue en commun. Donc, du coup, cette communauté de bananes, c'est peut-être celle qui me relie à Singapour, finalement. Je me retrouve dans le sens où j'ai l'impression qu'on a tous vécu des choses communes, on a des sensations communes ayant grandi en France. Après, j'ai hâte d'explorer plus parce que je les ai pas rencontrés encore. Mais j'ai ce sens que il y a beaucoup de choses dont on n'aura pas besoin de s'expliquer sur ceci ou sur certaines choses, et on comprendra tout de suite ce qui s'est passé.
Merci beaucoup Sophie pour ton témoignage. On a passé un super moment ensemble et c'est vrai qu'on aurait pu s'épancher des heures encore, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui.
Oui, pour le bien de tout le monde. Merci Viviane.
À bientôt. Au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur Spotify ou Google Podcast par exemple, et à nous laisser de bons commentaires. Merci.